E-Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Lepape.
Bonjour Margot Collet.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'égalité homme-femme, une thématique sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années. Vous avez notamment été membre du Haut Conseil pour l'égalité homme-femme. Et vous êtes maintenant consultante et formatrice dans ce domaine, mais également autrice, puisque vous avez contribué à deux ouvrages sur la question féministe. Pour finir, vous êtes aussi militante féministe au sein de l'association Oser le féminisme. Avec vous, on va parler de l'Espagne, pays auquel vous aviez en 2020 consacré un rapport sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, en opérant notamment un regard croisé avec la France. Et on va essayer donc de comprendre comment ce pays est devenu leader au niveau mondial dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Margot Collet, l'Espagne se distingue notamment par la législation qu'elle a mise en place.
Toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui en Espagne s'appuient pour la plupart sur une loi qui a été adoptée et entrée en vigueur depuis 2004. Donc ça fait quasiment 20 ans que l'Espagne compte sur cette loi cadre, aboutissement d'une grosse mobilisation des associations féministes et une loi, on va dire qu'on peut qualifier d'intégrale. Elle s'attaque à tous les pans, sociaux, juridiques, accompagnement, protection, judiciaire. C'est une loi cadre, intégrale et d'inspiration féministe, puisque c'est une loi qui ne parle pas de violence intrafamiliale, mais de violence de genre, et qui considère que les violences au sein du couple sont le résultat de la domination exercée par les hommes sur les femmes. Donc c'est quand même un changement de paradigme politique très important. La loi de 2004, elle crée, et ça n'existait pas du tout en Espagne avant, des tribunaux spécialisés de la violence sur la femme ou de la violence de genre, comme ça s'appelle. C'est exclusivement des tribunaux qui traitent des sujets de violence conjugale. La particularité de ces tribunaux, c'est que ce sont des magistrats formés et spécialisés sur le sujet. Ils ne passent pas toute la journée d'un vol de scooter et ensuite aux violences conjugales subies par madame et ensuite à un autre sujet. Il y en a qui ne traitent que ce type de sujet.
Vous dites justement que cette loi de 2004 était impulsée par les associations et la mobilisation qui a été faite en Espagne. Mais il y a aussi une mobilisation qui s'est faite en France et qui se fait toujours de la part des associations. Comment expliquer qu'on n'ait pas le même genre de loi en France ?
Peut-être que ça montre que les associations seules ne peuvent pas tout. Qui a réussi à faire, je pense, le mouvement féministe, mais pas seul. Hein, c'est aussi l'alliance d'associations féministes, de représentantes politiques et la recherche. C'est souvent un peu ce triangle à trois têtes qui permet les avancées féministes de manière générale. C'est aussi qu'il y a une mobilisation de la société globalement, plus fortement. Enfin, on va dire en termes de nombre, en termes de masse, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus impactant au sein de la population. Je prends un exemple. Dans les récentes manifestations qu'il y a eu en France autour des violences, on a atteint un record, 100 000 personnes qui défilent en France, dans tout le pays, dans les différentes manifestations organisées, impulsées par nous toutes. En Espagne, c'est 1 million de personnes, les récentes manifestations dans la rue, 1 million de personnes sur l'ensemble du pays. Donc c'est 10 fois plus de personnes qui vont marcher, qui vont manifester dans un pays dont la population est un tiers inférieure à celle de la France. Donc ça montre aussi que c'est un mouvement de masse qui concerne aussi les médias. D'ailleurs, en Espagne, c'est impossible, ou alors ça va déclencher une grosse polémique, de voir écrit la mention « crime passionnel » ou « drame familial ». Ça, c'est pas possible aujourd'hui en Espagne. Et c'est aussi le reflet d'une prise de conscience, qui ne concerne pas que les féministes, mais qui embarque globalement la société.
Il y a aussi toute une question de budget, parce que quand il y a des actions, il faut aussi les financer. C'est un budget particulièrement important en Espagne. À combien s'élève-t-il et à qui bénéficie-t-il ?
Alors effectivement, il y a eu une prise de conscience sur la question des moyens financiers, puisqu'effectivement, la loi en Espagne, elle est innovante, elle est large, il y a plein de dispositifs qui existent. Mais en Espagne, comme en France, la question des moyens humains et financiers, elle est centrale pour pouvoir être là partout, pour protéger toutes les victimes et qu'aucune victime ne se retrouve isolée et seule au moment où elle subit des violences. Je prendrai un exemple. En 2017, de manière transpartisane en Espagne, c'est-à-dire consensuelle, c'est pas une question politique, mais ça fait consensus parmi tous les partis politiques, et voter un pacte d'État contre la violence de genre qui comprend 290 mesures pour affiner, mieux appliquer la loi de 2004, mais qui a un budget associé à ces mesures. En France, on vote des plans, on n'associe pas un budget associé à ces mesures. Et ce budget, il est de 1 milliard d'euros supplémentaires, donc c'est-à-dire au-delà de tout ce qui se faisait déjà, 1 milliard d'euros supplémentaires sur 5 ans. Donc l'idée, c'est de dire, il faut qu'on se bouge, on a encore des marges de progrès à faire sur les violences, mais pour ça, il faut des moyens financiers pour les services publics, pour former les forces de police, pour des places d'hébergement.
Alors il y a toute une question aussi de la prise en compte des victimes, puisqu'en France, justement, la prise en charge des victimes qui est souvent mise en cause. Ainsi, selon le collectif Nous Toutes, qui lutte contre les violences faites aux femmes, 66% des femmes interrogées font l'état, je cite, d'une mauvaise prise en charge. Est-ce que c'est différent en Espagne ? Est-ce qu'il y a un système particulier qui a été mis en place ?
Je pense que tout est toujours perfectible. En Espagne, c'est pas parfait, évidemment, et il y a encore des femmes qui sont pas accueillies correctement, et il y a encore des femmes qui ne sont pas suffisamment protégées. Mais je crois que la marge de progression en Espagne, elle a été très très forte, notamment sur l'accueil en commissariat et en gendarmerie, où il y a eu un gros effort de fait sur la formation de toutes les personnes, quelle que soit l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait juste une personne spécialisée au sein d'un commissariat, parce qu'en fait, une victime, elle va venir porter plainte, pas forcément à la bonne heure, pas forcément quand c'est le tour de tel officier de police qui a été formé sur le sujet. Donc il faut vraiment que ce soit un effort dans la formation beaucoup plus important. Aujourd'hui, en tout cas de ce qu'en disent les associations féministes espagnoles, il est très peu probable, ou ce serait vraiment très rare, qu'une femme soit renvoyée chez elle sans que sa plainte ait été reçue et sans qu'on l'informe sur les dispositifs d'information et de protection. Ça concerne aussi la formation des magistrats. Il y a un magistrat sur trois en Espagne qui a suivi 50 heures de formation sur les enjeux de genre, l'approche intégrée du genre. Donc un magistrat sur trois qui a suivi 50 heures de formation. En France, la proportion des magistrats, des officiers de police et des professionnels de manière générale qui sont formés sur ces sujets, elle est pas quantifiée et elle est certainement beaucoup plus basse que ça.
On parlait du milliard juste avant, c'est un milliard qui a été obtenu donc en Espagne et qui a été échelonné sur 5 ans. Mais c'est aussi un milliard qui est demandé grandement par les associations depuis quelques années. Pourquoi est-ce qu'on ne le donne pas ?
Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi on ne donne pas un milliard ? Parce que la revendication des associations, et pas que des associations, d'ailleurs, il y a eu un rapport du Haut Conseil à l'égalité, du Conseil économique, social et environnemental sur l'argent consacré en France contre les violences faites aux femmes, qui estimait qu'effectivement, le besoin est de 1 milliard par an. C'est-à-dire, tous services confondus, il faudrait que le budget global, interministériel, il soit de 1 milliard par an. La seule explication, puisque ces milliards... On les trouve, en fait, quand on veut. Il y a des millions qui ont été attribués, par exemple, dans la politique de prévention de la sécurité routière. Donc, il y avait un objectif politique de « il faut qu'on passe sous la barre des 5 000 morts par an ». C'est un objectif politique, on le traduit par des moyens financiers conséquents et on arrive à obtenir des résultats. On est passé sous la barre des 5 000 morts par an. Je pense que du coup, si je poursuis mon raisonnement, c'est un manque de volonté politique ou en tout cas, c'est considérer que ça marche à peu près... avec des bouts de ficelle, avec des associations qui sont dévouées corps et âme et qui vont donner du temps gratuit et qui vont travailler le soir, la nuit et le week-end et qui, jusqu'à présent, ne se mettent pas en grève.
On parle de résultats, justement. Quels sont les résultats de ces politiques en Espagne ?
Déjà, les dispositifs, ils existent en France et en Espagne. En Espagne, ils sont beaucoup plus saisis. Je prends un exemple, l'ordonnance de protection, c'est une mesure qui peut être attribuée par un juge et qui permet dans un temps de réponse très court, donc c'est-à-dire sans attendre l'issue d'un procès pénal, de pouvoir prendre des mesures d'éloignement vis-à-vis de l'auteur et à la victime de pouvoir bénéficier d'une assistante sociale, psychologique, etc. Cette ordonnance de protection, elle existe depuis 2003 en Espagne, 2010 en France. Mais par contre, elle n'est pas du tout saisie de la même manière. Chaque année en Espagne, il y en a près de 30 000 qui sont accordées. En France, c'est 4 000. Un autre élément qui permet de mesurer les résultats, c'est aussi la diminution du nombre de féminicides. C'est un indicateur. Évidemment, il y a beaucoup de violences qui ne se traduisent pas par l'assassinat de la femme victime. Mais l'Espagne, depuis la loi, a réussi à diminuer les féminicides d'un quart. On était à 71 féminicides par an en 2003. En 2021, 48 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. 48, évidemment, c'est beaucoup trop. Et ça montre aussi que quand des mesures sont mises sur la table de protection, d'accompagnement et de suivi, on arrive à réduire le nombre de féminicides. Si on rapporte à la population, ça fait un taux de féminicide qui est deux fois moins élevé qu'en France.
Maintenant, on va revenir en France un petit peu, maintenant qu'on a fait le tour du système espagnol. Est-ce qu'il y a eu certaines propositions de loi ou même d'amendements qui ont voulu notamment... calquer le modèle français sur le modèle espagnol ?
Depuis très longtemps, il y a des associations, je pense en particulier au Collectif National Droits des Femmes, qui réclament une loi cadre. Il y a une mission parlementaire qui a été annoncée par la Première ministre en septembre d'étude d'une éventuelle spécialisation des juridictions Donc c'est aussi inspiré de l'Espagne, mais pas que. Au Québec aussi a été généralisée la création de ces tribunaux spécialisés. Je suis très optimiste et positive. Il faut continuer à promouvoir les recettes qui marchent, que ce soit en Espagne ou ailleurs d'ailleurs. Et évidemment que les violences conjugales et les féminicides ne sont pas une fatalité et qu'il y a plein de recettes qui marchent et dont on peut s'inspirer en France.
Une note d'espoir donc pour conclure cet entretien. Merci Margot Collet d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Je rappelle que pour toutes les femmes victimes de violences, il existe un numéro dédié, le 3919. L'appel est gratuit. Le numéro est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.